Je loue le Seigneur qui me donne cette occasion de me mettre debout devant vous. Et c'est une occasion que j'ai toujours eue de partager mon cœur avec les autres. Et j'aime le faire parce que quand je le fais, c'est profond pour moi-même quand je fais l'étude et que quand je partage avec les autres. Alors, ce matin, bien que Gisson Robert ne soit pas avec moi, il est en Floride. Parce que souvent, j'aime qu'il soit là et qu'après, qu'on puisse discuter comment ça a été. Il serait très sincère avec moi. Mais il continue à prier pour moi là où il est parce qu'il sait que je dois me mettre debout devant vous. Mais comme nous avons chanté, ce n'est pas avec les efforts personnels, ce n'est pas avec l'intelligence, ce n'est pas avec quoi que ce soit qu'on peut livrer un message venant de Dieu, mais c'est par le canal du Saint-Esprit. Alors, notre passage de ce matin est dans en Jean chapitre 10, le verset 11. Jusqu'à verset 18. Et je vais d'abord faire la lecture. Je ne sais pas si nous pouvons le voir. Oui. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entreront et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, personne ne m'élote, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Père, nous avons lu ta parole et nous venons d'entendre des mots connus, peut-être trop connus, usés par nos habitudes, abîmés par nos désobéissances, trahis par nos lâchetés. Mais Seigneur, ce matin, donne-nous d'écouter ta parole aujourd'hui et une parole vivante. Mets en nous, ô Seigneur, par ton Saint-Esprit, l'écoute de ta parole. Et Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs et ouvre notre volonté pour écouter ta voix. Et au nom de Jésus, amen. Je suis le bon berger. Quand nous avons lu ce passage, moi, quand j'étais en train de voir ce passage, je me suis arrêtée beaucoup de fois sur ce mot mercenaire. Et je me suis dit, non, moi, je ne veux pas parler de ces mercenaires. Je ne veux pas m'appuyer sur ce côté de mercenaire. J'ai plus voulu que nous soyons, nous tous, du côté des bergers. Et c'est là que moi, je me suis sentie confortable. Parce que si je m'appuyais du côté de mercenaires, je me verrai moi-même peut-être au-dessus de tout le monde, tous les autres. Mais les bergers, c'est là, de ce côté, que nous allons parler plus ce matin. Je suis le bon berger. Une phrase de Jésus qui a été souvent utilisée pour le décrire. C'est cette phrase ici. Je suis le bon berger. Et je pense que si nous pouvons arriver, ça c'est notre thème. Et notre but va juste être que nous puissions écouter sa voix et que nous puissions répondre au caractère de ces bons bergers. Alors, si nous pouvons aller au diapo de suivant, nous avons cette image du berger. Et moi, quand j'étais encore une jeune fille, moi, j'ai fréquenté à une école où il y avait des missionnaires. Et il y avait l'école du dimanche. Et après un certain temps, je suis devenue même enseignante de l'école du dimanche. Mais dès les bas âges, on recevait des images. Et parmi les images qui me donnaient de la joie, c'était cette image du berger portant sa brebis sur ses épaules. Et quand j'étais en train de lire ça, quand je vis encore cette image, je me suis dit, oui, c'était ce bon moment-là où je me sentais protégée par mon berger. Je pouvais prendre mon image, mettre ça dans ma Bible ou mettre ça au-dessus, en dessous de mon coussin et me sentir à l'aise parce que je voyais le bon berger portant sa brebis sur ses épaules. Je ne sais pas si vous avez aussi cette image de ces bergers. C'est un temps nostalgique que nous avons. Mais quand nous voyons le berger, la brebis, et c'est là, nous amène à voir qu'il y a l'élevage à côté de tout ça. Et je ne sais pas si vous savez qu'ici, au Québec, il y a beaucoup de producteurs d'agneaux, à peu près 1000 ou 100. Mais les agneaux ne sont pas aussi nombreux que les vaches laitières. Mais si vous avez déjà vu le troupeau de brebis, vous pouvez vous en rendre compte que ça fait de la joie de les voir. Mais en tant que jeune fille aussi, je me souviens voir des brebis. Et des brebis, ce qui était caractérisé comme des brebis douces. Mais j'avais aussi une image qui ne me rendait pas heureuse. Parce que les brebis, quand ils commençaient, quand une d'elles, celle qui était devant, commence à traverser la route, que ce soit 10 voitures qui passent, 10 autos qui passent, les autres ne vont pas s'arrêter. Ils vont suivre. Jusqu'à ce que la dernière brebis puisse traverser. Et nous pouvons en tirer aussi une leçon. Si nous sommes des brebis du Seigneur. Mais aussi quand je parle de l'élevage, je vois aussi là d'où je suis originaire, dans le Congo central, qu'il y a aussi des bergers, il y a aussi l'élevage de moutons. Mais je suis aussi contente de voir que dans l'élevage, il y a deux sortes. Là, moi, je ne sais pas chez vous, chez nous ici, parce que je suis québécoise aussi. Là-bas, il y a l'élevage avec éleveurs ou bergers. Et nous avons aussi là-bas l'élevage sans berger, dont les brebis sont à divagation. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En divagation, sont donc personne ne prend soin d'eux. Ils doivent chercher à manger. Ils sont là, ils dorment comme ils veulent, ils se réveillent comme ils veulent. S'ils ont à manger, ça va. S'il y avait un animal féroce qui était là, en tout cas, c'est bon pour la brebis. Et je ne pense pas que cela soit le cas ici. Mais quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous avons lu ces passages, nous avons vu que les habitants de la Palestine, quand ils ont entendu Jésus parler du bon berger, ils en savaient quelque chose, parce qu'ils avaient l'habitude eux-mêmes aussi de garder des bergers, des brebis. Mais Jésus aussi utilisait des illustrations de la vie quand il voulait amener les gens à comprendre, vite comprendre ce qu'il voulait dire. Parce qu'on comprend mieux quand on est devant quelque chose avec quoi on a l'expérience. Quand Jésus a dit aux Juifs, « Je suis le bon berger », ils avaient tout de suite une image bien précise à l'esprit. Jésus, comme je l'ai dit tantôt, il prend les illustrations de la vie. Et Jésus disait, je suis le pain de vie. Et nous connaissons aussi cette phrase. Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité. Ils ont écouté cela. Et nous en avons aussi l'expérience d'écouter Jésus nous parler ainsi. Mais alors, pourquoi ce passage aujourd'hui? Pourquoi, si nous pouvons frôler un peu jusque là où nous avons la définition, nous allons voir que si nous parlons, quand Jésus parle de mercenaires, nous savons le mercenaire, quand nous pouvons le voir dans les dictionnaires, un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour un profit, pour l'argent, pour être payé, pour un intérêt quelconque. Alors, Jésus a compris ce qui s'est passé dans la vie des habitants qui habitaient autour de lui. Et Jésus voulait donner une leçon palpable dans la vie de ses auditeurs. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici pour nous ce matin? Je suis le bon berger. En fait, prononçant cette phrase, Jésus voulait d'abord, parler d'une parole d'avertissement. Et nous allons voir comment. Parler d'une parole d'avertissement. Il voulait aussi parler d'une parole de polémique. C'était une parole de polémique. Et nous allons voir comment. Et une parole de promesse. C'est très important que ce matin, nous arrivions à comprendre ce que Jésus veut que nous puissions avoir ce matin et pour notre vie. Peut-être que nous le connaissons déjà, peut-être que nous le faisons déjà, alors ça va juste être un rappel pour nous, pour que nous puissions réfléchir sur la parole de Jésus qui s'est dit qu'il est le bon berger. Alors, une parole d'avertissement. Cette parole, pourquoi est-elle une parole d'avertissement? Parce que le bon berger a un engagement total envers ses brebis. Le bon berger a un engagement total envers ses brebis. Et c'est là, dans notre passage, nous pouvions bien voir ça dans le verset 11 et 12 qui dit, qui disent, pardon, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et nous savons bien, un bon berger comme David devrait défendre ses brebis contre les lions, contre le loup, contre tout danger. Et Jésus les proclame. Je suis le bon berger. Jésus est prêt à prendre des risques, à recevoir de mauvais traitements pour prendre position, par exemple pour l'aveugle. Quand Jésus rencontre un aveugle au jour du sabbat, il ne s'était pas arrêté à réfléchir. « Oh non, ça c'est le sabbat. » Mais il est allé voir le besoin profond de l'aveugle. Il le guérit. Bien que ceux qui l'entouraient étaient mécontents, mais Jésus a guéri parce qu'il dit que je suis venu pour donner une vie abondante à mes brebis. Il donne sa vie pour les brebis. Et cet avertissement de donner sa vie, Jésus recherche le bien de ses brebis. Il recherche le bien de ses brebis à tout prix. Jésus a sauvé ses brebis en offrant même sa vie contre la mort qui menaçait le brebis. Et ça, la mort, c'est le plus grand danger qui peut hanter le brebis. Le plus grand danger. Et Jésus n'avait jamais reculé devant la mort. Il donne sa vie pour ses brebis. Et dans Marc 10, 45, il le déclare encore, le Fils de l'homme est venu pour ne pas être servi, mais pour servir et donner sa vie comme sacrifice. Et c'est un avertissement. Un avertissement comment? Un avertissement parce que Jésus nous montre que, étant un bon berger qu'il est, il n'a pas peur. Il se donne aux difficultés. C'est un avertissement dramatique que nous avons entendu dans les 6 versets que nous avons lus à 5 reprises. Ça s'est répété. Je donne ma vie. Je donne ma vie. Je donne ma vie. Je donne ma vie à 5 reprises. Alors, en cela, Jésus est en train d'annoncer à ses disciples qu'il accepte effectivement le fait qu'il va devoir se dessaisir sa vie pour eux. Je dois mourir parce que je suis le bon berger. Et Jésus, quand il dit ici, ce n'était pas une hypothèse que si cela arrivait, mais c'était une réalité. Il le voyait venir, sa mort. Alors, en le disant, il annonce les difficultés. Il s'annonce pas comme le berger de la facilité, comme ce que prônent les autres. Quand vous venez à Jésus, votre vie, vous allez marcher sur le roseau comme le rose. Mais Jésus nous avertit que la vie du disciple, la vie du bon berger, c'est une vie qui fait face aussi aux difficultés, qui offre la vie pour sauver le brebis. reconnaître Jésus comme bon berger, ce n'est pas s'inscrire dans une vie sans difficulté, mais se prendre à affronter les réalités et les difficultés. Sommes-nous d'accord avec ça? Que nous disent les autres? Non, la maladie. Non, toutes les maladies ne viennent pas du diable. Toutes les maladies, comme Jésus l'avait dit aux autres qui entouraient l'aveugle, Jésus dit, non, il est aveugle pour la gloire de Dieu. La vie de la brebis, c'est la vie sans difficulté. Jésus l'annonce, il nous avertit, il avertit ses disciples. Je dois donner ma vie, je dois me sacrifier. Moi, je suis le bon berger. C'est Jésus qui le dit, Jésus qui l'annonce. C'est une parole, une phrase d'avertissement. Mais cette phrase, comme nous l'avons dit encore, c'est une phrase polémique. Une phrase polémique. Bien qu'il soit le bon berger, il donne sa vie, mais il dit une phrase polémique parce que le bon berger a un intérêt sincère pour le brebis, un intérêt sincère. Nous avons lu qu'au 12e verset, il pointe du doigt au mercenaire. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne ses brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'ils sont mercenaires et qu'ils ne se mettent point en peine de brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Quelle phrase importante pour ma vie! Quelle phrase importante pour ma vie! Jésus est le bon berger. Mais maintenant, si nous avons vu que le mercenaire, c'est un engagé, le brebis, comme dit Jésus, n'appartiennent pas à ces mercenaires. Donc, qu'ils soient en peine, qu'ils soient contents ou quoi, ça ne regarde pas les mercenaires pourvu que moi, j'aie mon profit, mon intérêt à moi. Ils ne s'engagent pas à protéger les brebis au risque de sa personne contre le loup, le mercenaire. Il abandonne les brebis et il fuit le danger. Mais Jésus, en Jean 10, 7 à 10, il donne encore un autre qualificatif. Ces gens-là, les mercenaires, sont des voleurs et des brigands. Ce qu'ils cherchent, il n'y a que la destruction. La destruction de brebis. Pourquoi il n'a point d'intérêt? Et si cette question pouvait nous arriver, Jésus voulait faire la différence, le contraste entre les bons bergers, le voleur, entre les bons bergers et le voleur, ce qu'il appelle encore le brigand, ce qu'il appelle encore mercenaire, ce qu'il appelle encore destructeur, il veut mettre le contraste. Il est le bon berger. Est-ce que comprenons-nous la hauteur de ce que Jésus nous dit, que c'est lui le bon berger. Et si nous pouvons peut-être nous poser la question, à qui, à quoi nous confions ce que nous avons de plus précieux au monde? Qu'est-ce que nous avons de plus précieux au monde? Si je n'étais pas en train de prêcher ici, peut-être que je pouvais passer pour poser la question. Qu'est-ce que vous pensez la chose la plus précieuse dans votre vie? Parfois nous prétendons, parfois nous donnons la réponse sans toutefois comprendre de quoi il s'agit quand nous disons, mais la chose la plus précieuse de ma vie, c'est mon âme. L'âme qui pêche mourra. Est-ce que je comprends de quoi il s'agit? Mais Jésus, en nous avertissant, comme une parole d'avertissement, il a fait le contraste à ne pas fuir ces dirigeants religieux qui étaient là. Que vous les voyez, faites attention, utilisez le discernement. Voyez un peu leur comportement. Voyez un peu ce qu'ils cherchent. Voyez un peu leur prédication. Voyez un peu ce qu'ils mettent devant. Comparez-le à moi. Est-ce que sommes-nous prudents dans notre vie? Que dans notre question aussi que nous venons de nous poser ici, à qui, à quoi? Le mercenaire, le voleur, le destructeur, ce n'est pas nécessairement une personne. Mais tout à quoi nous pouvons mettre toute notre confiance qui pouvait détruire notre vie, notre âme? C'est le brigand, le voleur. Heureusement, Jésus ce matin nous donne clairement ce contraste. Quelle que soit ma réponse, quelle que soit ma naïveté, peut-être que je n'ai pas encore compris, mais ce matin, c'est clair et simple que Jésus est le bon berger parce que c'est lui qui peut offrir sa vie pour nous venir en aide. C'est le mot polémique. Polémique. Mettre le contraste. Savoir en qui, en quoi, et ce n'est même pas en quoi, mais en qui. Je mets toute ma confiance en Jésus, qui est le bon berger. Si nous allons pour un deuxième point de ce Jésus qui fait le contraste entre les mercenaires, et nous voyons encore une autre chose très importante qui est aussi, qui crée une polémique. Jésus s'identifie personnellement aux brebis. Mes brebis. Qu'est-ce que ces juifs, les religieux, pouvaient bien comprendre à cela? Parce qu'ils ne voyaient pas que Jésus, ne voyaient pas encore que Jésus était le Fils de Dieu. Pour eux, le brebis, pour les religieux, le brebis leur appartenait. Mais Jésus vient, leur dit, clairement, c'est moi qui suis le bon berger. Et tous ceux-là, qui est devant vous sont mes brebis. Oh, c'était terrible devant les religieux. Mais Jésus doit le faire, doit éclairer pour pouvoir nous montrer le bon chemin. Et Jésus pouvait le déclarer que pour moi, je pouvais prendre mes brebis entre mes mains. Et c'est comme cela que, en le disant, il ne pouvait pas, lui, se référer aux prophètes. Parce que quand nous lisons Ézéchiel chapitre 34, à partir du verset 10 au verset 16, qu'est-ce que la prophétie dit là-bas? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs, pas nous ici. Ce n'est pas nous qui sommes les pasteurs, ce n'est pas nous qui enseignons. Il ne parle pas à nous parce que nous ici, à l'Oasis, nous sommes tous de brebis ce matin. OK? Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes comme les brebis qui sont là chez moi en divagation. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tout lieu où elles ont été dispersées au jour de nuages et de l'obscurité. Donc nous pouvons partir jusqu'au 16e verset où Jésus reprend encore la prophétie et les prophéties et il dit, il fait le contraste. Moi, je suis le bon berger, une parole d'avertissement. Une parole polémique. Et troisièmement, une parole de promesse. J'aime beaucoup cette partie de promesse. Parce que le bon berger a un plan personnel pour chaque brebis. Alléluia! Là, c'est comme chez moi. Je rentre là au Congo quand nous disons Alléluia! Amen! Le bon berger a un plan personnel pour chaque brebis. Dans notre passage, ce verset 14 jusqu'au verset 18. Comme il dit, comme nous venons de lire aussi en Ésaïe, Ézéchiel, c'est lui-même qui va paître ses brebis. Donc, comme il a un plan pour chaque brebis, comment il le déclare d'abord? Il dit, moi, je connais parfaitement chacune de ces brebis. Comme nous sommes ici, je peux oublier vos noms, mais lui connaît, Jésus le bon berger, connaît les noms, il peut passer, il dit, et il connaît même les fins fonds, il connaît même le besoin. Elle dit, j'ai un plan personnel pour toi, ma brebis. Ça me réconforte. Je peux être sans nom. Je peux être une personne qui passe et qui ne sera pas vue des autres, qui ne sera pas considérée. Mais ce qui me réconforte ce matin, et quand j'ai passé sur ce passage, c'est de savoir que Jésus me connaît. Je suis la fille de Jésus. Jésus a un plan merveilleux et personnel qu'il a taillé selon mes besoins à moi. Il connaît bien mes besoins. Il connaît bien mes craintes. Seulement pas ça, mais il connaît aussi mes péchés. Il connaît aussi mes péchés. C'est pour dire que moi, la brebis, je ne saurais même pas me cacher devant lui parce que je l'appartiens. Il peut me voir au-dedans de moi. Je ne saurais même pas me cacher. Alors, si j'ai quelque chose qui me dérange, il m'invite tout simplement d'aller à lui. Venez, parce que ce n'est pas par vos efforts, mais c'est par ma grâce. Ce n'est pas à partir de ce que vous avez fait ou toi, ce que tu as fait. Ce n'est pas à cause de tes péchés. Ce n'est pas à cause de tes mérites. Quand il vient, quand il me prend, il ne serre pas sa figure à cause de mon comportement, à cause de mon tempérament, à cause de mes péchés. Mais il vient, il me prend et il me dit, je t'aime. Tu es ma brebis et je prends soin de toi. Une parole de promesse. Et quand nous voyons tout cela, ça nous fortifie pour aller à Jésus. Si la promesse est là, il voudrait que nous puissions nous approprier de cette promesse. Parce qu'il dit, je suis le bon berger. Mais Jésus, il ne s'arrête pas à celui qui l'a déjà accepté. Malheureusement, il dit, toutes les brebis ne sont pas encore mes brebis à moi. Toutes mes brebis, il a un plan pour ces brebis qui ne sont pas encore venues dans sa bergerie. Il voudrait que toutes ces brebis-là reviennent à lui parce qu'ils appartiennent à lui. Quelle promesse! Et c'est ce qui pouvait nous réconforter, à savoir que Jésus, le bon berger, veut aussi nous inviter, nous qui sommes des brebis dans sa bergerie, de nous aimer, d'aller chercher les autres. Malgré, au-dessus de la diversité, par exemple, de notre confort, il est dit, tout le monde est riche, pauvre, intelligent, pas intelligent, je ne sais pas qui pouvait être, qui n'a pas d'intelligence. Nous tous, nous sommes intelligents. Et malgré la diversité de races, il nous dit d'abord, nous recommande, nous invite de nous aimer d'abord. De nous aimer d'abord. De nous voir tous comme des brebis d'une seule bergerie. Et la bergerie qui n'a qu'un bon berger, qui est Jésus Christ, notre Sauveur. Comprenons-nous ce matin ce que Jésus est en train de nous dire, en souriant. Il est très gentil et il nous dit, venez. Et j'ai aimé toutes les chansons qui étaient là. Je me suis dit, oh, le Saint-Esprit, vraiment, il nous appelle, il nous invite, parce qu'il dit, vous ne savez pas le prix. Nous pouvons le dire de nos bouches. J'ai payé, vous avez été rachetés. Terminons-en d'abord avec, vous avez été rachetés. Avec un grand prix. Nous pouvons bien le dire de nos bouches. Peut-être que nous n'arriverons pas à comprendre cette douleur que Jésus a sentie. Cette douleur de laisser son Père juste pour venir nous prendre, juste pour venir nous aimer, juste pour venir nous sauver, juste pour venir nous satisfaire de nos besoins, juste pour venir enlever, ôter les péchés qui nous séparaient de Dieu. Il a donné sa vie. C'est un salut avec beaucoup de difficultés. Parole d'avertissement. C'est un salut avec une polémique, il devrait venir s'éteindre et parler à ceux qui pensaient que le brebis leur appartenait. C'est moi, le bon berger. Et Jésus devait venir nous parler pour nous donner encore cette promesse sûre qui est réelle, que nous nous appartenons à lui. Il nous appelle « mes brebis à moi », une possession qu'il connaît mes besoins. Il a un plan merveilleux. Et il voudrait, dans cette promesse, il a dit que je suis venu donner une vie abondante et je voudrais que toutes les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie viennent pour que moi, je sois leur bon berger et pour que j'aie une seule bergerie et dont le maître est Jésus, le bon berger. À qui appartenons-nous? À qui moi je m'appartiens? À qui je donne mon âme? Qu'est-ce qui me dérange pour ne pas suivre ces bons bergers? Qui le déclare avec joie, qui donne sa vie avec joie pour moi, pour toi et pour la génération qui va suivre. C'était une polémique parce que les autres ne voyaient pas que les païens, les Israélites ne voyaient pas que les païens pouvaient appartenir à Jésus. À eux, c'était une polémique. Ne soyons pas heureux juste parce que nous sommes ici. Voyons aussi les autres. Voyons aussi les autres. Sacrifions-nous pour les autres, pour que la bergerie du Seigneur soit au grand complet. À Dieu soit la gloire. Que le Seigneur nous réconforte. Que nous nous partenions, que nous puissions nous partenir à ces bons bergers. Que nous puissions lui donner notre vie. Lui qui a planifié déjà notre vie. Lui qui a un plan merveilleux pour moi, pour toi et pour l'éternité. Et c'est lui qui nous donne la vie éternelle, qui n'aura jamais de fin. Amen.